Vous êtes dans Pause Commune, un cycle d'émissions spéciales pour tenter de comprendre ensemble et dans la confusion à quoi sommes-nous face, ralentir et réfléchir pour engager la riposte.
Populisme.
Thèse nationaliste.
C'est la tentation fasciste, le désir de fascisme.
Xénophobe.
Souveraineté autoritaire.
Populiste de droite.
De l'extrême droite.
Nationalisme au souverainisme.
Du djihadisme.
C'est le patriotisme. Le patriotisme.
Du terrorisme et de l'islamisme radical.
Populisme.
La montée.
Oui.
Ils sont à l'heure.
La montée.
Oui. Vous assumez de prononcer le nom.
La montée.
Oui.
La montée.
Le fascisme.
Je vous propose un exercice de respiration pour retrouver le calme en quelques minutes.
Voilà, Pause Commune sur FPP. Alors, comme vous le savez, on a travaillé sur un cycle, le cycle extrême droite, fascisme, populisme, nationalisme, autoritarisme. Alors tout ça, on l'a mis au pluriel, ce cycle, mais les formes sont diverses, bien évidemment, mais c'est un mouvement unique, un peu le même partout, une même dynamique. Donc c'est des contenus idéologiques qui sont devenus un peu fourre-tout, ressassés régulièrement, qu'on veut tenter ici sur FPP à travers ce cycle de contextualiser, d'expliciter et de discuter pour appréhender au mieux les dangers qui menacent et envisager les formes de résistance à opposer à ce bloc d'extrême droite. Donc c'est ce débat que FPP voulait proposer depuis début janvier pour engager la riposte nécessaire. Alors juste un petit récapitulatif des émissions passées. Il y a eu le lundi 7 un état des lieux de l'extrême droite en France et du paysage des luttes antifascistes. C'était, vous pouvez d'ailleurs réécouter l'émission sur le site de FPP. Le samedi 12, on a évoqué la possibilité du fascisme. Ça, c'est pareil, écoutable encore sur le site de FPP. Le lundi 14, l'extrême droite en Italie. Le mardi 15, l'extrême droite et fascisme en Allemagne et Autriche. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux réseaux sociaux, Internet et l'extrême droite. Jusqu'au 27 janvier, on continuera avec deux autres émissions derrière. Le jeudi 24, nationalisme religieux avec l'exemple de l'Inde, des États-Unis et d'Israël. Le dimanche 27 janvier, ça clôturera ce cycle d'émissions sur Fréquence Paris Pluriel, les résistances antifa à travers la musique punk. Voilà, ce sera dimanche 27 janvier. Et vraiment, après, pour se voir, se rencontrer donc en vrai, ce sera dans le cadre d'une soirée projection le samedi 16 février autour donc du film de Yanis Yuluntas, L'amour et la révolution. Ça sera au bar de la solidarité, donc attenant aux locaux de FPP, 1 rue de la Solidarité, dans le 19e arrondissement. Alors comme je l'annonçais ce soir, on va s'intéresser aux réseaux sociaux, mais pas seulement, à Internet d'une manière large, et à l'extrême droite, sa présence donc en ligne avec Hervé de la Horde.
Bonsoir.
Juste pour présenter l'extrême droite et les réseaux sociaux, donc c'est une émission qu'on a enregistré, qui n'est pas en direct, qui se veut sans contenu d'extrême droite. On n'entendra pas ces propagateurs de haine sur notre antenne. Vous entendrez des musiques et puis deux personnes donc, qui essaieront de dresser cet état des lieux, des réseaux sociaux et des idées d'extrême droite très compatibles aussi avec ces outils de communication de masse. En tout cas, on va faire le tour avec Hervé de la Horde autour de ce sujet-là qui, concrètement, je pense, intéresse beaucoup d'auditeurs parce que c'est notre vie quotidienne. On est entouré de ces moyens de communication, de ces outils d'information aussi. Et la présence de l'extrême droite est assez complète et assez importante. D'abord, pour commencer, Hervé, donc un petit point peut-être sur la Horde, si tu le veux bien. Vous êtes présent sur le terrain, mais aussi beaucoup sur Internet, avec des outils d'information, des outils militants pour combattre concrètement donc, les idées d'extrême droite. Est-ce que tu peux revenir sur ce travail qui s'expose sur Internet, nous parler donc de ce terrain-là, numérique, d'informations partagées, propagées aussi? C'est une composante du combat antifasciste actuel pour toi, important en tout cas?
Oui, alors pour revenir rapidement sur ce qu'est la Horde, donc c'est un collectif qui est né en 2012, qui est donc assez récent, et qui est parti du constat que l'antifascisme et surtout les groupes antifascistes locaux ne disposaient plus d'outils communs ni de vitrines depuis que les deux grands réseaux qui les fédéraient jusque-là, c'est-à-dire le réseau Nopassaran, plutôt libertaire, et le réseau Ralfront, ces deux réseaux n'existaient plus réellement. Et donc, même s'il y avait toujours en France une activité antifasciste, elle était devenue quasiment invisible.
Donc les années 90 en fait.
Donc là, alors elle était très vraiment visible dans les années 90 et puis ça s'est lentement délité au cours des années 2000 et donc au début des années 2010, nous-mêmes qui faisions pour l'essentiel des gens qui composent le collectif partie de ces réseaux-là, on s'est dit que y avait un problème, c'est que alors que des groupes continuaient à avoir une activité, parce qu'encore il n'y aurait plus du tout d'antifascisme, voilà, mais il y avait toujours des groupes qui se montaient, des manifestations, des actions qui étaient menées contre l'extrême droite, sauf que plus personne n'était au courant. Donc nous, notre idée, notre collectif, c'est pas un collectif de lutte de terrain, vraiment, même si on n'est pas que dans le domaine virtuel, dans le sens où on fait pas de travail local, par exemple, on n'est pas implanté quelque part. Les gens qui composent notre collectif sont de différentes villes, voire de différents pays. On essaye en tout cas de mettre à la disposition à la fois des groupes mais aussi des individus antifascistes des outils. Donc il y a un site internet effectivement qui diffuse de l'information. Alors c'est vraiment une information dans deux directions, à la fois une information sur l'extrême droite pour quand même savoir de quoi on parle, mais aussi et à part égale de l'information sur les initiatives antifascistes qui sont menées, puisque c'était ça quand même notre objectif principal, servir de vitrine aux activités antifascistes, du moins celles dans lesquelles on se reconnaisse, c'est-à-dire les activités antifascistes autonomes, indépendantes de l'État bien sûr, et puis même de grands partis. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand les gens s'auto-organisent contre l'extrême droite localement, et c'est ça qu'on essaye de valoriser. Et puis on essaye aussi, toujours à travers le site, mais aussi à travers des émissions comme celle d'aujourd'hui, ou des formations, des interventions publiques, de faire un petit peu de pédagogie, à la fois pour donner aux gens des éléments factuels et des éléments théoriques pour comprendre ce qu'est l'extrême droite, et puis aussi des éléments sur la même chose, mais sur la question de l'antifascisme, la force, son histoire, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, puisque depuis quelques années aussi, il faut bien le constater malheureusement, il y a une tendance un petit peu à parler à notre place, à dire les antifas sont ceci, les antifas sont cela, et il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de contre-vérités qui circulent sur la question de l'antifascisme, et c'est un peu désespérant pour nous de devoir le faire, mais une des tâches de la Horde, c'est aussi d'essayer de répondre à cet anti-antifascisme, on va dire, qui malheureusement aujourd'hui se porte bien.
Alors justement, est-ce que Internet est un combat pour vous, un terrain de lutte, et pourquoi Et est-ce que ça l'est véritablement? Est-ce que c'est un vrai champ de bataille? Parce que notamment, étant donné que vous êtes visible sur Internet, avec tout ce qu'on suppose comme attaque possible avec votre travail, est-ce que vous constatez ça, qu'il y a un combat, une sorte d'attaque régulière contre vous, par exemple?
Alors oui, évidemment. C'est un peu le problème d'Internet, c'est qu'en fait, on y est facilement exposé. Donc oui, on subit régulièrement des attaques, mais je pense comme en fait tous les sites. C'est-à-dire qu'à partir du moment aujourd'hui où vous menez un site internet et que vous dites quelque chose dessus qui peut déplaire à des gens, avec de l'argent et un peu de moyens, et malheureusement l'extrême droite en a, on peut très facilement pourrir, on va dire, un site qui ne nous plaît pas. Mais bon, voilà, ça ne nous touche pas que nous. Donc dans ce sens-là, oui, Internet, ce n'est pas une zone pacifiée, ça c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, de notre côté, on ne fait pas de cyberactivisme à proprement parler. Des groupes l'ont fait par le passé, je pense à Fafwatch par exemple, mais à partir du moment où on a en plus de l'existence du site une activité, on va dire, plus ouverte sur l'extérieur, avec de la diffusion de matériel, on diffuse des stickers, des brochures, des livres, on fait des interventions publiques, à partir du moment où on a cette activité là elle n'est pas compatible, évidemment, avec vraiment du cyberactivisme dur qui implique nécessairement, par exemple, un hébergement vraiment sécurisé, une clandestinité plus ou moins organisée. Donc on est prudent quand même, on fait attention, on est discret, mais voilà, on a quand même une activité qui reste une activité publique. Après, l'information que nous on diffuse, elle est aussi en contrepoint justement de ce que peuvent faire par ailleurs des médias mainstream. Alors que malheureusement, les journaux font de moins en moins. Il y a quand même quelques... mais je pense par exemple le blog du Monde droite extrême qui avant faisait un travail, pour ainsi dire, arrêter son activité. Il reste encore sur certains sites, sur Libé, etc. Mais c'est souvent très focalisé sur la question du Front National. Et finalement, c'était un sujet sexy encore il y a quelques années, et puis ça l'est de moins en moins. Alors il y a quelques, surtout chez les pure players, il y a quand même encore chez les journalistes du travail de qualité. Ça arrive sur Street Press, par exemple, qui fait souvent quand même des bons papiers sur le sujet, bien documentés, mais ça reste quand même assez rare. Et voilà, c'est devenu, je pense, moins vendeur. Peut-être que par le passé, j'en sais rien, en fait, j'ai même pas envie de répondre à la question, c'est à eux qu'il faudrait le demander, mais le fait est que quand même, c'est aussi une des raisons pour laquelle notre travail est devenu vraiment nécessaire, c'est que malheureusement, et je dis bien malheureusement, on est vraiment plus très nombreux à le faire. Il y a Visa, par exemple, qui est aussi une association militante antifasciste, qui le fait sur la question syndicale.
Syndicale, voilà. Qui regroupe plusieurs tendances syndicales
et qui fait vraiment un travail d'information sur l'extrême droite et aussi de déconstruction de discours vraiment intéressant. Mais honnêtement, si on cherche un petit peu plus loin, il n'y a pas grand-chose. Et donc, ça aussi, et encore une fois, on s'en plaint, hein, plus qu'autre chose, le fait est que la Horde soit un des derniers sites à faire encore ce travail-là, nous expose d'autant plus, quoi.
Alors, bon, je vais pas décrire un plan de discussion là jusqu'à cette petite heure qu'on a encore ensemble, mais on va commencer après avoir donc décrit un peu votre travail que tu as très, très bien expliqué, c'est revenir sur les formes et les canaux de l'extrême droite. Justement, comme on en parlait un petit peu avant, hors antenne, c'est cette préhistoire de leur présence sur Internet. L'extrême droite, donc, je peux le dire comme ça, parce que c'est vrai que quand on n'est pas un passionné d'Internet, quand on est un peu un utilisateur moyen, on est souvent très, très rapidement confronté à des informations d'extrême droite, des idées, des réseaux qui se diffusent très, très facilement, très massivement, même dans des canaux grand public. Alors, d'où vient cette présence et pourquoi est-ce que du côté de la Horde, vous avez cette analyse des réseaux, ces circuits de diffusion? Je sais que ce n'est pas votre spécialité forcément, mais en tout cas, voilà. Comment se fait que l'extrême droite est aussi présente sur Internet?
Pour donner des éléments de réponse, hein, encore une fois, c'est que des éléments de réponse, c'est pas la réponse à cette question, mais je dirais qu'il y a quand même deux pistes de réflexion. La première, c'est une piste historique, comme tu l'as dit. C'est-à-dire, on va revenir rapidement, on va pas faire un long historique de ça, mais quand même revenir rapidement sur la façon dont l'extrême droite s'est emparée d'Internet de façon très précoce et relativement intelligente, en tout cas pensée. Ça, c'est le premier axe. Et puis le deuxième axe, et là, c'est un coup de chance pour eux, on va dire, et malchance pour nous, le fait que les principaux acteurs d'Internet, bon, pour faire simple, hein, Google, Facebook, YouTube, ont, de par leur fonctionnement, vraiment offrent, en tout cas, de par leur fonctionnement, leur logique, même, je dirais, plutôt, les meilleurs outils pour la propagande d'extrême droite. Alors, que les choses soient bien claires, ce n'est pas... un complot, ce n'est pas concerté, c'est-à-dire c'est pas volontaire, je pense, mais il se trouve que les meilleurs outils qui pouvaient être fournis par Internet à l'extrême droite l'ont été, c'est l'ironie du sort, par les principaux acteurs en fait du domaine. Voilà, donc peut-être on peut répondre à la question en deux temps. Pour la partie historique, il faut revenir un petit peu à l'arrivée d'Internet dans les foyers en France. Donc on est au début des années 90, donc c'est relativement tardif par rapport à l'invention d'Internet, mais c'est le cas. Donc l'abandon du Minitel, pour les plus anciens, ceux qui se rappellent, et puis l'arrivée un peu magique comme ça d'Internet. Et on est au milieu des années 90, quand va ouvrir, en 95 précisément. Donc pour le contexte, pour les plus jeunes, il faut imaginer 95, c'est un des plus grands mouvements social qui ait connu la France, en tout cas la France des dernières décades, et avec vraiment à la fois chez les étudiants, dans les services publics, mais aussi dans les grandes entreprises, des mouvements de grève massifs, un mouvement protestataire de gauche assez puissant, l'émergence aussi, y compris dans la jeunesse. Donc on a une situation assez exaltante, il faut le dire, dans la rue. Et à la même période, il va y avoir le premier site d'extrême droite, enfin le premier site pardon, politique français qui va ouvrir ses portes, et il se trouve que c'est un skin néo-nazi, Hervé Guttuso, un gars de Marseille, qui est allé en voyage aux États-Unis et qui, auprès des suprémacistes blancs là-bas, du Ku Klux Klan, a découvert un petit peu l'usage qu'on pouvait faire d'Internet, c'est-à-dire un endroit où on pouvait dire absolument ce qu'on veut, de façon totalement débridée et dans l'impunité la plus totale. Évidemment, quand il voit ça... c'était la révélation. Et donc, il rapporte ça en France et il fait le site donc, des Charlemagne Hammer Skin. Pour donner un peu le niveau, à l'entrée, il fallait cliquer. Soit on était arien, soit on était une sous-race, et il fallait choisir son camp dès l'entrée. Donc ça, c'est un petit peu pour l'anecdote, mais c'est quand même intéressant de savoir que le premier site politique français a été monté par un néo-nazi. Ensuite, il est intéressant de voir que c'est le Front National qui est le premier parti politique à avoir monté un site internet, alors pour le coup sur le web, là on est vraiment au balbutiement du web, au tout début, et à proposer, c'est surtout ça, parce que Bon, il y a un petit entre eux et les écolos, il y a une petite guéguerre sur savoir qui est vraiment le premier sur la question des dates, mais le premier vrai site internet, c'est-à-dire un site qui pouvait offrir de l'interactivité, des outils qui n'étaient pas simplement de la mise en ligne de texte. Alors évidemment, au début, c'était un petit peu ça, mais très rapidement, l'introduction de la vidéo, l'introduction d'éléments interactifs, le chargement de mini-applications, etc. Au sein du Front National, il y avait vraiment une antenne dédiée à ces nouveaux médias, ce qui n'existait pas dans les autres partis à l'époque. Donc, pourquoi cette implication précoce ? Bah, pour deux raisons. La principale, c'est que c'est un peu par défaut. C'est-à-dire, le fait est que l'extrême droite était privée depuis la Seconde Guerre mondiale, était ostracisée, ça c'est vrai, de l'espace public. Donc, il était difficile pour eux de pouvoir s'exprimer sans problème. Dans la vie réelle. Alors aujourd'hui, ça paraît un peu fou, mais il y a eu une époque où, quand on était facho et qu'on voulait faire une réunion publique, bah, ça ne se faisait pas facilement. Hein, c'était compliqué. Donc il y avait ça. Donc c'est par défaut. Mais c'est aussi parce que, de toute façon, la question de la propagande, comme dans toutes les idéologies autoritaires, est évidemment centrale dans l'activité des mouvements d'extrême droite. Et donc là, ils ont vu un nouveau moyen de faire de la propagande, et donc évidemment ils se sont jetés dessus. Je fais un petit anachronisme, on peut imaginer que si Adolf Hitler avait vu l'émergence du web, le premier site internet politique, ça aurait été celui d'une NSDAP. Donc, et on voit que le modernisme dans la matière, la fascination pour sur l'impact que peut avoir les médias de masse, c'est connu que les régimes totalitaires et les régimes d'extrême droite en particulier sont très friands de ça.
Donc, ils avaient le cinéma à l'époque. Hein, donc,
ils l'ont largement utilisé.
Même développé, comme tu disais, avec d'une manière esthétique, etc. Hein,
voilà. Alors là où c'est nouveau, là où ils ont très vite, et c'est là où, quand je disais tout à l'heure que c'était intelligent de leur part, en tout cas que c'était pensé, ils ont très vite compris deux choses, et vraiment avant tout le monde, je pense, dans le champ politique. Un, que il y avait avec la question de l'interactivité, en fait ils se sont très vite posé la question de l'interactivité qui allait pouvoir de parler sans filtre et directement à des gens et de façon quasi instantanée. Bon, ça, ça paraît une évidence aujourd'hui pour tout le monde, oui évidemment, mais à l'époque il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu ça, qui ont cru qu'en fait internet, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se disaient ouais c'est pas intéressant, un petit peu comme les gens qui font ouais mais la 3D c'est nul parce qu'en fait c'est comme des films mais c'est en 3D. Bah là les gens disent ouais mais internet c'est nul, en fait c'est comme les livres, c'est comme les journaux sauf que c'est sur un ordinateur. Donc ils avaient rien compris à internet, mais elle, l'extrême droite, alors je dis l'extrême droite au sens large, évidemment c'est pas toute l'extrême droite, hein, mais certaines composantes de l'extrême droite ont compris que là, il y avait quelque chose de le média le plus direct qui soit, c'est-à-dire on est à la fois le contrôle total du média, un contact sans filtre, sans intermédiaire avec les personnes auxquelles on s'adresse, et ça c'était énorme. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'ils ont compris très très vite, alors là plutôt au début des années 2000, avec l'arrivée de Facebook et des réseaux sociaux, c'est le fait qu'on développait sur Internet une communauté spécifique, une communauté virtuelle. Et ça, cette notion de communauté, forcément, l'extrême droite y est très sensible, puisque c'est un petit peu
ses racines idéologiques.
En tout cas, une de ses thématiques fortes, oui. Puisque l'idée, c'est ça, hein, c'est de construire une communauté, et surtout une communauté homogène. Et là, ils ont tout de suite compris, avec les réseaux sociaux, puisque c'est le propre des réseaux sociaux, que c'était le meilleur moyen de développer une communauté, et en plus une communauté fantasmée, hors sol, qui pouvait s'affranchir du réel. En gros, la stratégie d'extrême droite sur Internet, c'est là où on va voir à quel point ça recoupe vraiment la raison d'être des grands acteurs d'Internet. C'est en gros en quatre étapes. Pour gagner la bataille des idées, hein, puisque c'est ça l'objectif, la bataille dans la rue, l'extrême droite a compris que c'est pas ça qui allait se faire. Elle l'a essayé, hein, elle a tout essayé, le terrorisme d'extrême droite, les grandes manifestations de rue avec le FN, et puis en fait tout ça, c'était avant ça, quoi. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. C'est en gagnant la bataille des idées, en fait, et la bataille culturelle, comme l'a fait la gauche, en tout cas dans leur esprit, à la fin des années 60, et puis pour comme ça, les années 70 et les années 80. Donc à partir de là, comment gagner la bataille des idées ? Eh bien, c'est Internet qui va permettre de le faire. Ça, pour eux, il y avait dès très très vite, très très tôt, ils en ont été convaincus, et il y avait quatre choses à faire. Un, délégitimer les médias traditionnels, radio, télé, journaux. Et ça, évidemment, c'est Internet qui allait le permettre, puisque c'était un nouveau média. Ensuite, créer ses propres médias alternatifs. Et ça, l'extrême droite l'a très bien fait. Le meilleur exemple, ça sera en 2007, Égalité et Réconciliation, ou Riposte Laïque, tous les sites de... bien sûr, j'ai oublié F2 Souche, donc, qui n'est pas du tout une initiative d'un individu, mais du monsieur Internet du Front National des années 90, Paul Sautarel, qui a mis en scène, pareil, une nouvelle façon de diffuser de l'information avec des médias propres. Et la troisième étape, donc une fois qu'on a délégitimé les médias de mainstream, qu'on a créé ses propres médias alternatifs, la troisième étape, c'est de créer une communauté virtuelle. Et là, évidemment, c'est Facebook qui... c'est la raison d'être de Facebook, c'est-à-dire c'est pas du tout un réseau, Facebook, on le sait, ouvert sur l'extérieur. C'est au contraire un réseau de l'entre-soi, puisque la raison d'être même de Facebook, c'est de retrouver tous les gens qui sont dans votre environnement
et de faire circuler, on en parlera après.
Donc là, il trouve un écho très fort avec Facebook. Et enfin, la quatrième étape, une fois qu'on a délégitimé les médias, une fois qu'on a créé les siens et qu'on a fait sa propre communauté autour de soi, à partir de là, on peut commencer vraiment à lancer une offensive systématique de propagation de sa propre propagande. Et aujourd'hui, c'est un peu comme ça qu'elle se fait, à travers la manipulation de l'information.
Alors, ça introduit donc notre deuxième partie qui serait de savoir s'il n'y a pas un déséquilibre entre, d'une part, des slogans autoritaires, racistes, xénophobes qui occupent beaucoup l'espace numérique. On parle actuellement, là, on met de côté un peu l'histoire, qu'ils polluent plus facilement, et des groupes antifascistes qui auraient plus de peine à exister. Est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est encore le cas que, toutes sortes de groupes, même à tendance progressiste, un bloc, on va dire, de gauche, d'une manière générale, n'aurait pas la même force de frappe? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
C'est un petit peu difficile de répondre. C'est-à-dire, en termes de volume, oui, ça, c'est sûr. Mais malheureusement, c'est un petit peu à l'image de ce qu'Internet est devenu. C'est-à-dire que l'essentiel de ce que charrie Internet, c'est de la boue, de toute façon. Pas simplement sur le champ politique. Je veux dire, si on regarde chaque année, c'est un peu déprimant de faire ça, mais de regarder, je sais pas moi, les 10 vidéos, par exemple, les plus vues sur YouTube, si c'est ça, l'avenir de l'humanité, ça donne juste envie de se flinguer. Donc, faut relativiser un petit peu aussi ça sur ce que Internet charrie en général. Et après, dans le champ politique, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est normal, il y a une espèce de légitimité, on va dire, et d'ancienneté dans le média de la parole raciste, sexiste, etc. D'autant que, on va pas faire de la psychologie de bazar, mais malheureusement, c'est quand même un peu la réalité. Faut quand même voir que les acteurs d'Internet, pour être un acteur d'Internet, il faut disposer de beaucoup de temps, autrement dit, pas avoir grand-chose à faire dans sa vie. Souvent, on est seul, souvent, on est un homme, souvent, on est un blanc. Et donc, de fait, souvent, on a des si on est un peu frustré. Il y a eu, c'est quand même un petit peu aussi ça, hein, je veux dire, faut pas non plus masquer la face. C'est moins vrai aujourd'hui, mais c'était quand même vrai au début. C'est aussi l'univers des geeks qui n'est pas forcément toujours un univers très ouvert. Et donc, s'il y a la conjonction de tout ça, bah, c'est vrai que ça a créé une culture, en tout cas geek. Ça, clairement, je veux dire, les meilleurs exemples, c'est la alt-right américaine. On a quand même une culture geek qui, au départ, n'est pas politisée, dont moi, je ne pense rien de spécial. Hein. Il ne s'agit pas de porter des jugements de valeur là-dessus, mais qui, de fait, s'est retrouvée assez facilement récupérée par l'extrême droite, quand même, pour l'essentiel, parce qu'elle s'y prêtait assez facilement.
Oui, comme dans les forums de jeux vidéo, par exemple, ou des choses comme ça. Même s'il y a des luttes, quand même, dans, je ne veux pas défendre tout le monde geek que je ne connais pas forcément de
oui, ce n'est pas du tout, de ma part, une attaque sur ce monde-là.
Il y a des luttes politiques au sein de même des mouvements geek, entre guillemets, avec cette culture, par exemple, du jeu vidéo ou de la culture numérique en général. Il y a des luttes entre l'extrême droite sur des forums, avec une tendance aussi d'extrême gauche.
Je suis d'accord. Hein. Là, encore une fois, je simplifie vraiment de façon un peu bête, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un univers quand même dans lequel, en tout cas, quand l'extrême droite s'est invitée, encore une fois, hein, que les choses soient bien claires, c'est pas dans l'autre sens, on n'est pas en train de dire que les geeks sont devenus des faf, mais quand l'extrême droite s'est invitée dans ce milieu-là, finalement, c'est un peu comme avec les skins, quoi. On est d'accord, les skinheads, c'est pas l'extrême droite, blablabla, bla, bla, mais le fait est que quand on prône un mode de vie un peu viril, un peu axé sur la violence, etc. Bah, de fait, quand l'extrême droite arrive, elle est un peu comme dans un poisson dans l'eau. Bah, là, c'est pareil, quand c'est un univers dans lequel bah, voilà, on passe son temps à jouer à des jeux de guerre avec des filles à moitié à poil et tout ça, bon, bah, c'est sûr que quand l'extrême droite se pointe, tout de suite, ça ne fait pas forcément tilt. Hein. Alors là, encore une fois, c'est très caricatural. Et puis aujourd'hui, je crois qu'on n'en est plus là. Mais dans un premier temps, le fait que l'extrême droite ait pu investir les forums, je pense à jeuxvideo.com, aussi facilement, c'est pas parce que les gens étaient faf, mais c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré de résistance. Parce que les gens, ils ont pas vu, ils ont pas calculé, je pense. Ils n'ont pas vu venir, ils n'ont pas trop compris. Et après, il y a eu une espèce d'attaque frontale. Après, on a fustigé un petit peu, bah, comme je viens de le faire, le monde geek. Et du coup, il y a eu un raidissement de dire « Mais quoi, bah, puisque c'est comme ça, puisqu'on nous attaque, voilà. » Donc, il y a eu beaucoup de maladresse là-dessus. Et c'est aussi un environnement, bah, c'est comme les gens qui disent, qui se plaignent que les antifa, enfin, que les gens n'investissent pas assez le monde du stade, etc. Et que du coup, ça le laisse à l'extrême droite. Bah, c'est vrai. C'est-à-dire que on peut penser ce qu'on veut du stade, on peut se compenser...
Ce qu'il y a eu dans les années 90, d'ailleurs, avec l'exemple du PSG. Oui.
On peut penser ce qu'on veut du stade, on peut penser ce qu'on veut des communautés virtuelles. Ce sont des espaces de socialisation, des espaces de rencontres et d'échanges, et dans lesquels, potentiellement, oui, il peut y avoir de la politique, et donc on doit s'y intéresser. Enfin, on doit. En tout cas, c'est souhaitable qu'il y ait des... Alors, tu me dis qu'aujourd'hui, ben, il y a des luttes, et c'est vrai. Jeuxvideo.com, par exemple, les forums, c'est plus du tout comme avant. Ça a été investi par d'autres gens et tout ça. Mais bon, de fait, c'est aussi c'est déjà un peu du passé, quoi. Maintenant, c'est autre part que ça se passe. Et là où ça devient compliqué, c'est que justement, l'étape de la construction de ses propres médias, aujourd'hui, est très avancée. C'est-à-dire que les médias d'extrême droite, qui étaient un peu dans leur balbutiement dans les années 2000, même au début des années 2010, aujourd'hui se sont professionnalisés. Je pense à TV Liberté, par exemple, qui est plutôt pour les anciens, pour les vieux, mais c'est quand même une télé de qualité professionnelle. Elle s'est fait bannir de YouTube, mais elle avait déjà la solidité pour pouvoir continuer à diffuser des émissions quotidiennes, offrir une grille complète comme une vraie chaîne de télé. Je pense à une web radio comme Méridien Zéro, qui est une radio pareille qui offre des programmes assez complets, de qualité, on va dire, avec beaucoup d'invités. Donc, pareil, parce qu'ils reposent sur l'ancienneté. Et puis, évidemment, il y a toute la catégorie des youtubeurs. Il y a les sites dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui sont un petit peu en retrait aujourd'hui, Égalité, Réconciliation et Riposte Laïque, mais qui ont, ou Boulevard Voltaire, plutôt Riposte Laïque, c'est un peu anecdotique, mais ou Boulevard Voltaire, qui sont vraiment des sites qui ont posé un modèle, une espèce de oui, voilà, c'est ça, un archétype de ce qu'est un site de réinformation, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un signe de vitalité.
Mais en tout cas, justement, ça introduit un peu la deuxième partie. C'est quels sont ces influenceurs, parce que Internet, ça marche aussi beaucoup sur le partage, et donc un type influent va pouvoir partager. Donc, est-ce qu'il y a des genres de figures principales? Bon, on les connaît, on va un peu les égrener, mais bon, pas trop non plus. Hein. C'est gens un peu comme un peu dans les millions mondains ou dans la mode, on se transmet des idées, des tendances. Et bien là, il y a des idées qui se propagent grâce à des figures principales. Quelles sont leurs véritables en fait stratégies à eux? Est-ce que c'est de diffuser des idées, de se faire du fric? En tout cas, ça c'est clair et net, c'est qu'il existe un vrai fan club. C'est aussi le trait saillant de l'extrême droite sur Internet, c'est que ça repose sur la personnalité. Là, on retrouve vraiment le schéma autoritaire, c'est-à-dire la figure principale et puis ses petits oisillons, on va dire comme ça. Donc, quelles sont leurs stratégies à ces gens-là?
Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question. Peut-être plutôt que de pointer des personnalités, on pourrait le faire, hein, on va peut-être lâcher quelques noms, mais comme ça change tout le temps, c'est pas forcément le plus intéressant. En tout cas, il y a des grandes tendances. Dans ce qu'on appelle la fachosphère, un mot que nous, on n'utilise pas parce qu'on le trouve un petit peu vague. Bon, voilà, c'est l'extrême droite sur Internet. Bon, pourquoi fachosphère? Comme si, en fait, ça crée l'illusion que ça ferait un espèce d'ensemble cohérent, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. En fait, on a trois grands pôles d'Internet. On a sûrement la plus structurée, la mieux organisée, et celle qui a la diffusion la plus importante, c'est toute la frange réactionnaire. Là, et pourquoi elle est solide, c'est qu'elle s'appuie à la fois sur le média Internet, mais aussi elle a des prolongements dans le monde réel à travers des revues. Je pense par exemple à des personnalités comme Eugénie Bastier ou Charlotte Dornella ou des gens comme ça qui ont une visibilité assez grande sur Internet, qui sont invités dans plein de médias d'extrême droite sur Internet, qui se font connaître comme ça, qui montrent leur visage, qui donnent aussi, qui incarnent. Parce qu'en fait, la force du média aussi, je ne l'ai pas dit, c'est qu'elle permet d'incarner à un moment donné des idées et de l'incarner à rebours des représentations habituellement que les gens ont de l'extrême droite. C'est-à-dire que quand on parle à un individu dans la rue, pour toi c'est quoi l'extrême droite? Bah, les gens ils vont voir une espèce de bande de skins avec des croix gammées qui tapent des zigs et voilà, des gens comme ça, ou alors Le Pen, ou voilà. Mais le visage que va offrir l'extrême droite sur Internet sera toujours un visage extrêmement avenant. Il y a beaucoup de séduction là-dedans. La preuve, il y a beaucoup de femmes, alors que traditionnellement l'extrême droite, il n'y en avait pas. C'est clairement pour ces raisons-là, là-dessus, c'est tout à fait évident. D'ailleurs, l'extrême droite elle-même aime bien parler du physique de ses intervenants, hommes ou femmes, d'ailleurs. Ce n'est pas forcément que les femmes. Mais bon, le sexisme aidant, évidemment, c'est souvent plutôt les femmes qui sont mises en valeur comme ça. On loue leur beauté, voilà. Elles sont aussi agréables à regarder qu'à écouter, enfin des choses comme ça. Il ne faut pas le négliger.
Marine Le Pen a initié le truc, d'ailleurs, quand elle a été sur les affiches, ses premières affiches de propagande, de électorale plutôt, c'était une blonde.
La vidéo, là où ça change tout, c'est que la vidéo, surtout la vidéo de type vidéo à la maison, crée une intimité qui est d'autant plus agréable, on va dire, que la personne est séduisante, mais pas forcément physiquement, mais aussi va être avenante avec un certain charisme. Alors, il y a quand même les deux. Donc, il y a quand même cette frange-là, et surtout qu'il y a des prolongements. Hein, je pense à Eugénie Bastiat, à une revue qui s'appelle la revue Limite. Il y a la revue L'Incorrect, qui est l'espèce d'expansion dans le monde de la presse de cette pensée-là. Donc, c'est un système complet. Et puis, qu'il y a des relais aussi dans les médias mainstream. Hein, je veux dire, il y a Zemmour, évidemment, mais pas seulement.
Donc ça c'est plutôt récent comme temps.
Un champ bien sûr traditionnel de l'extrême droite, c'est-à-dire en France l'extrême droite c'est la réaction, et ce champ réactionnaire a quand même beaucoup utilisé, je veux dire la Manif pour tous en est un bon exemple, a beaucoup utilisé les réseaux sociaux, les médias pour faire sa propagande. Donc il y a ce champ-là qui est disons la partie la plus présentable d'Internet.
Ça, c'est la partie propagande, propagation d'idées.
Dans tous les cas, c'est de la propagation d'idées. Mais là, c'est pour un champ, si tu veux, idéologique particulier, voilà. Qui est, on va dire, la partie vraiment la plus présentable. C'est presque de l'extrême droite mainstream, on pourrait dire, quoi. Mais qui quand même s'appuie, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces gens-là s'appuient à la fois sur les médias mainstream, sur des revues traditionnelles, mais également vont crédibiliser, et en fait, c'est dans un double échange, vont aussi interviewer exactement de la même façon sur les médias alternatifs d'extrême droite. TV Liberté, toutes sortes de... Ou des youtubeurs vont les inviter, etc. Ils vont participer à ça de façon tout à fait ouverte, à part égale. Ce qui va évidemment valoriser, donner du crédit à ces médias-là. Après, il y a... alors évidemment, l'exemple type, c'est Égalité et Réconciliation, mais c'est aussi tous les youtubeurs spécialement dans le volet antisémite, mais pas seulement, qui vont utiliser Internet comme étant l'espace de la liberté d'expression, dans le sens, avec des guillemets, c'est-à-dire dans le sens dont ils l'entendent. Alors, qu'on s'entende bien sur les mots, normalement, la liberté d'expression, enfin, quand tu luttes pour la liberté d'expression, tu luttes pour la liberté d'expression de ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire pas toi, mais des gens dont tu penses qu'ils sont privés de la liberté d'expression, et donc tu vas essayer de faire qu'à un moment on les entende. Alors que les gens qui prétendent à l'extrême droite défendre la liberté d'expression ne défendent que la leur. C'est-à-dire la seule chose qui leur importe, c'est de pouvoir, eux, dire ce qu'ils veulent dire, et en général, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Eh bien, c'est des propos racistes, des propos sexistes, des propos antisémites. C'est ça qu'ils ont envie de parler, et c'est la seule liberté d'expression qui les intéresse. Et ils s'appuient pour ça sur une réalité dont on a parlé tout à l'heure, qui est qu'effectivement, pour des raisons historiques évidemment, ce discours-là n'était pas le bienvenu dans l'espace public, et encore heureux. Et c'est ça qu'ils appellent défendre la liberté d'expression. Et c'est tout. Ouais. Je veux dire, la liberté d'expression de quelqu'un qui ne penserait pas comme eux, ils en ont strictement rien à foutre.
Oui, mais alors, ils en tirent, c'était dans ma question, il y avait aussi l'aspect financier. C'est-à-dire, ils en tirent aussi profit. C'est-à-dire qu'un Zemmour, dans son réseau éditorial, que ce soit du passage d'Internet aux émissions télé, la vente d'un livre avec les réseaux dans les maisons d'édition, pourquoi pas, hein, il est mis en avant comme ça, mais il en tire profit. Soral, ses revenus, c'est 100% Internet et commerce en ligne. Hein, c'est, donc dans la stratégie il y a la propagation d'idées, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi simplement se remplir tout simplement les poches?
Alors oui, mais la principale source de revenus, elle n'est même pas celle-là, c'est ça l'ironie du sort, parce qu'à la limite qu'ils se fassent de l'argent en vendant leurs propres livres, grand bien leur fasse. Mais la principale source de revenus, elle va venir non pas de leur propre vente, alors c'est quand même un business, hein, c'est sûr, mais c'est surtout l'argent généré par les recettes publicitaires du fait de l'hypervisibilité de leur site. Or, on le sait, hein, c'est un secret de polichinelle, on sait que même si les sites d'extrême droite sont réellement très visités, ça n'a rien à voir avec les chiffres avancés, puisque l'essentiel des sites d'Internet, mais comme la plupart des sites, des sites d'extrême droite, mais comme la plupart des sites sur Internet, les chiffres n'ont aucun sens, puisqu'on achète du clic. Je veux dire, tous les sites d'extrême droite achètent des clics. Pour quelques milliers d'euros, tu as des centaines de milliers de vues. Et c'est la condition sine qua non pour aujourd'hui, puisque dans l'esprit d'un jeune aujourd'hui, faire 1 million de vues, c'est pas fou, quoi. C'est un peu le minimum pour être un petit peu connu, quoi. 1 million de vues. Donc on sait que ces chiffres-là n'ont plus aucun sens. L'extrême droite l'a très bien compris et donc n'a pas de problème avec ça. Et le clic appelant le clic, eh bien, c'est une source de business. D'ailleurs, ça a été un gros problème quand, à un moment donné, il y a eu une campagne de cyberactivisme antifasciste dans laquelle nous, on ne se reconnaissait pas spécialement, mais en attendant qu'elle a été efficace, d'interpeller les entreprises qui finançaient la publicité sur Internet à travers YouTube, des publicités, des contrats passés, sans savoir en fait sur quel type de site leur publicité s'affichait. Des grandes boîtes, des grandes entreprises ont été un peu interpellées par des cyberactivistes antifascistes en leur disant « ça vous gêne pas que sur un site islamophobe, sur un site sexiste, il y a des publicités pour vos produits ?» Et du coup, là c'est pareil, hein, clairement pour défendre leurs intérêts financiers, certaines entreprises ont retiré leur publicité, au moins pendant un temps, histoire que ça se calme. Et ça a été pour l'extrême droite un vrai problème, parce qu'ils tiraient effectivement des gros revenus, encore une fois, non pas de leur propre production, ce qui serait légitime, mais de l'exploitation de la mécanique capitaliste d'Internet. Ce qui est quand même, pour des gens qui se prétendent anti-système, une fumisterie vraiment de base. Après, de toute façon, l'extrême droite n'a pas de problème avec l'argent et avec le fait de gagner de l'argent. Donc, en interne, entre eux, ça pose absolument aucun souci. Mais par rapport à leur discours anti-système, anti-finance, anti-blabla, partout où il y a du fric à se faire, il n'y a aucun scrupule chez les militants d'extrême droite, quels qu'ils soient, à lier l'utile à l'agréable.
Alors vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. On revient donc avec Hervé de la Horde sur l'existence de l'extrême droite sur Internet. On a évoqué son histoire, sa présence en ligne et puis l'éco-compatibilité, le circuit économique compatible entre Internet et l'extrême droite. On sait que Internet est un espace marchand. On échange des données contre en général des services. On peut aussi payer directement un fournisseur qui procurera donc, comme tu le disais tout à l'heure, plus d'audience, des clics, des vues. Internet dans ses grands canaux, finalement, c'est un système financier d'exploitation que l'on connaît bien à l'échelle mondiale, mais qui évolue là dans un espace dématérialisé. Alors, justement, existe-t-il un soutien financier ou une collaboration de la part des grands réseaux qui tirent une audience, donc des revenus, comme tu disais, de cette violence d'extrême droite? Est-ce que pour être écouté ou visible sur Internet, il faut de l'argent? Et donc, est-ce qu'il y a des réseaux qui financent tout cela au niveau même international, qui puissent être, on va dire, des moteurs et même des turbos de la propagation du contenu là, d'extrême droite. Pas forcément des réseaux, mais en tout cas des contenus, c'est-à-dire des contenus xénophobes, racistes, anti-système, toutes ces espèces de notions que l'on retrouve très facilement sur Internet.
Alors, je vais prendre la question peut-être un peu à l'envers, c'est à l'extrême droite un vrai fantasme qui consiste à dire que, par exemple, un milliardaire comme Soros serait le grand financeur, le grand pourvoyeur et le grand créateur finalement de toutes les structures qui lutteraient contre le nationalisme et qui seraient donc le financier des réseaux dans lesquels, par exemple, un groupe comme La Horde ou un documentariste comme anarchiste comme Yanis Yuluntas serait, et que donc il y aurait des financiers à la manœuvre pour financer. Alors on va pas nous faire le même procès dans l'autre sens, c'est-à-dire de dire, eh bien voilà, en fait, la fachosphère s'est financée de l'extérieur par ceci, par cela. Nous, on pense que tout simplement, des gens ont monté des structures sur Internet pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis le début, et elles sont, à notre avis, largement suffisantes, et ils en ont fait un business. Après, il peut y avoir, mais ça, comme c'est la propagande d'État, comme il y a toujours eu, alors là, pour le coup, c'est pas propre à Internet, mais évidemment, c'est facilité par Internet, la volonté de certains États d'essayer de manipuler un peu l'opinion dans les pays voisins. Bon, bah ça, c'est pas nouveau. Il se trouve que, pour prendre un exemple concret, c'est le cas du Kremlin qui clairement finance et installe et met en place des médias un peu partout en Europe pour non pas manipuler l'opinion, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas offrir une certaine vision de l'information qui soit la plus favorable possible au mouvement populiste d'extrême droite, au mouvement nationaliste un peu partout en Europe, avec le but, mais clairement affiché, enfin il n'y a pas de mystère, de déstabiliser l'Union européenne, d'en faire à nouveau une myriade de micro-États qui seront évidemment bien plus faciles à affronter, à la fois économiquement, politiquement, diplomatiquement. Bon voilà. Donc que la Russie de Poutine le fasse, c'est pas étonnant. Qu'à un moment donné, la tentation ait été aussi du côté de l'alt-right américaine de le faire, le travail que Steve Bannon fait en ce moment à travers l'Europe, passe essentiellement par Internet. Alors, c'est un travail de propagande. Alors, dans ce sens-là, il y a une part de manipulation, mais qu'on s'entende bien. On ne parle pas de complot ou de réseaux clandestins, etc. Même si, forcément, la façon dont l'argent circule se fait de façon assez discrète. On sait, par exemple, que la Manif pour tous a été en grande partie financée par des donateurs américains. Mais ça n'en fait pas une création, vous voyez, une marionnette qui serait manipulée de l'étranger. Hein. De la même façon, la façon dont RT, Russia Today, traite l'information est orientée idéologiquement, très clairement, de par les tribunes qu'elle offre, la vision qu'elle donne, les petits commentaires qu'elle fait. Et c'est fait, il y a une visée politique, voilà, et qui est favorable à l'extrême droite. Donc, je dis ça parce que nous, par exemple, on a mis les deux médias russes dans notre schéma au sein des médias d'extrême droite. Ils ne sont pas à proprement parler des médias d'extrême droite dans le sens où ils seraient animés par des militants d'extrême droite, mais ils sont dans la même dynamique de surexposition des activités de l'extrême droite. Et ça, c'est très facile à démontrer. Et c'est même pas en soi d'ailleurs un problème, je veux dire, elles ont le droit de parler de ce qu'ils veulent, mais qu'on nous dise pas que Russia Today parle de tout, ils ne parlent pas de tout, et ils en parlent pas n'importe comment, ils en parlent d'une certaine façon. Alors on va nous dire, oui, mais TF1, BFM TV aussi fait de la propagande, évidemment, on n'est pas en train de dire que c'est les propres à le faire, mais ils font de la propagande d'une autre façon, et ils ne servent pas la soupe aux groupes nationalistes de la même façon, voilà, c'est tout.
Ça, c'est une évidence. Et donc, surtout, on les retrouve dans les thématiques que ces médias abordent. Là, quand on est sur Internet, est-ce que, d'après toi, ces groupuscules, pour sortir un peu de ces grands médias, comme on parlait des médias russes, mais là, pour rester un petit peu dans l'Internet franco-français, parce que c'est surtout ça dont on parle, parce que ils sont assez présents, est-ce qu'ils avancent plutôt masqués, est-ce que c'est un blog blocs homogènes, connectés, ou c'est au contraire une pluralité de personnalités, de courants, en tout cas qui reprennent un peu les mêmes thématiques, mais qui n'auraient pas les mêmes marottes, c'est-à-dire que les uns ça va être les musulmans, les autres ça va être les juifs, les autres ça va être les femmes, les autres ça va être les migrants. Est-ce qu'ils possèdent en fait un langage, des codes ou une culture commune? Est-ce qu'on peut parler vraiment d'un bloc d'extrême droite au final? Enfin, ça c'est clair et net que c'est l'extrême droite, mais est-ce qu'on peut parler d'un bloc commun?
Un peu difficile de le dire. En tout cas, je dirais que c'est un groupe hétérogène, mais qui sait où sont leurs intérêts communs. C'est-à-dire qu'il y a clairement une forme de clientélisme, c'est-à-dire que chacun va être un petit peu sur son créneau, et que quand il y en a deux qui sont sur le même créneau, bah, ça bataille, il faut savoir qui est le vrai, le numéro un, quoi. Donc il y a des petites querelles d'égo. Il y a aussi, ça c'est un phénomène quand même assez marquant, une surreprésentation des personnalités au détriment des structures collectives, ce qui à mon avis est de, pour le coup, une erreur énorme de leur part, c'est-à-dire qu'à délaisser les structures traditionnelles, associatives, culturelles, enfin, organisationnelles et même les partis politiques, au détriment de l'ego trip et puis de l'éphémère quand même, parce qu'on ne peut pas être star, je veux dire, Soral le voit bien à ses dépens, il a été déjà bien longtemps, 10 ans c'est déjà énorme, je trouve, d'avoir tenu aussi longtemps, c'est trop même, mais aujourd'hui, la durée de vie d'une starlette de l'extrême droite sur Internet est évidemment bien moindre. On le voit, et puis il y a aussi le fait de devoir un moment assumer ce qu'on est. On a des multiples concurrents, donc il y a comme ça un groupe quand même qui n'est pas uni, qui n'est pas homogène, mais qui sait se retrouver sur l'essentiel. C'est-à-dire d'abord il y a des constantes, comme tu l'as dit. Il y a des figures sur lesquelles tout le monde s'accorde, qu'on peut taper. C'est le migrant ou la migrante. C'est le musulman ou la musulmane. Là-dessus, il y a à peu près un consensus global de tous les groupes d'extrême droite qui fait que on va au moins se retrouver là-dessus. Après, la question de l'antisémitisme reste clivant, mais pas au point clivant dans les discours. C'est-à-dire, certains vont s'en revendiquer, d'autres pas du tout, mais ça va plus être un obstacle comme par le passé où avant il pouvait y avoir des gens qui se mettaient sur la gueule sur cette question-là. Bon, là, ça peut toujours arriver, plus ou moins, certains ne trouvant les autres trop sionistes, entre guillemets, confèrent le pathétique spectacle donné par Soral et Conversano, voilà, pour ceux qui connaissent un peu les histoires. Mais honnêtement, pour l'essentiel, il y a ce sentiment qu'il y a plus de choses qui les rassemblent que de choses qui les séparent. Et d'autre part, on a une volonté chez certains groupes de justement de s'homogénéiser un petit peu, et en cela, et pour cela, de renoncer à certains fondamentaux. Et c'est là où on commence à arriver un petit peu au bout d'une logique. Si je prends l'exemple de l'Action française, par exemple, l'Action française est en train de vivre, enfin, ou a vécu il y a quelques semaines, il y a quelques mois, une fracture en son sein.
Donc un groupe.
Alors l'Action française, pardon, c'est
néo-nationaliste. Hein,
alors c'est le plus vieux. Ah oui. Ah, l'Action française, non, c'est national catholique, on va dire,
catholique, okay.
D'obédience royaliste, hein, précisément, maurassienne, et qui est le plus vieux mouvement d'extrême droite en activité français, et qui, ce que je voulais dire, je prends son exemple, parce qu'en son sein, donc il est traditionnellement, hein, parce que Maurras l'était, traditionnellement antisémite, voilà, vichiste, bon. Mais qui aujourd'hui commence à en son sein à dire bon ben en fait ce poids de l'histoire ne fait que nous ralentir et ça sert à rien en fin de compte, c'est inutilement clivant et on doit s'en débarrasser. Pareil l'antisémitisme obsessionnel de Soral, finalement il voit bien que ses anciens camarades de jeu commencent à s'enlacer. Je pense à Vincent Lapierre, par exemple, qui a été très proche, donc un vidéaste qui était très proche de Soral. Bah, sur cette question-là, clairement, il voit bien que bon, l'antisémitisme, ça commence à sentir la naphtaline. Et donc on voit que il peut y avoir une espèce de comme ça d'homogénéisation, mais qui va se faire un peu par la négative. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que un projet construit s'élabore. Ça ne veut pas dire qu'il y a une pensée politique réellement qui se met en œuvre, il faut quand même relativiser les gens qui parlent pendant des heures sur un canapé face caméra. Souvent, ce qu'ils disent en une heure et demie, ça tient en termes de contenu en deux minutes. Donc il y a beaucoup de délayage, et en fait les gens se saoulent au sens propre du terme, c'est-à-dire comme un euphorisant, quoi. Se saoulent d'un discours qu'ils connaissent déjà. Donc on est vraiment dans le plaisir de ressasser éternellement les mêmes choses, et sur les réseaux sociaux, puisque c'était quand même notre sujet, clairement le fil Twitter, le Facebook, etc. C'est ça fonctionne un petit peu comme ça en circuit fermé, de toujours recevoir le même type d'infos présentées de la même façon, avec le même vocable, et on se grise de ça. On ne s'informe plus là depuis longtemps, mais on se saoule comme quelqu'un qui en aurait jamais assez. Si je peux me permettre cette comparaison un petit peu osée, c'est un peu comme la pornographie, quoi. Les amateurs de pornographie vont y retourner pour revoir toujours la même chose, hein, finalement. Mmh. Et ça leur plaît quand même, et c'est un petit peu le mystère de la chose. Et bien là, c'est un peu pareil. Il y a une espèce de pornographie, c'est-à-dire que c'est à la fois un petit peu addictif, en même temps, c'est un peu interdit. Il y a un côté un petit peu transgressif, mais dans lequel soi-même on n'est absolument pas impliqué. C'est, je trouve que le parallèle.
Oui, avec le mot dissident qui est régulièrement.
Voilà, et puis il y a le côté un peu comme ça, on ne peut pas s'empêcher, le côté un peu voyeur, c'est-à-dire on est quand même extérieur de ça. Et je trouve qu'il y a une forme. Alors je ne sais pas si c'est adapté le terme pornographie, mais il y a un petit peu de ça quand même. Et du coup, aussi une dimension, tu vois, tu venais sur une dimension commerciale. Là, on est vraiment dans les bas-fonds. Et ça, je pense qu'il y a vraiment les gens qui produisent comme ça de la vidéo en continu, les papacitos, pour toujours dire la même chose, sont dans cette démarche-là, un petit peu d'addiction, je ne sais pas comment dire, un peu malsaine. Et puis, il y a quand même un troisième aspect, il faut quand même en parler parce que c'est assez différent. Je pense par exemple, et c'est en lien un petit peu, alors ça peut se rapprocher de ce qu'on observe avec les gilets jaunes, c'est-à-dire des gens très isolés. Et là, c'est plus du tout le même public, c'est souvent des gens âgés ou alors des gens sans emploi dans des zones périurbaines, rurales, donc un peu la clientèle gilets jaunes. Et ces gens-là, parfois, n'ont plus d'autres liens sociaux que Facebook ou copains d'avant, ou, enfin c'est tout ça. Et il y a des groupes d'extrême droite qui se sont construits à 100% de cette façon. Je pense par exemple, alors parfois à l'origine il peut y avoir une espèce de figure un peu charismatique, mais c'est vraiment pas du niveau des youtubeurs connus, hein. C'est vraiment, on est plutôt dans le bas de gamme là. Je pense à La Meute par exemple de François Galvert, ou les Barjols dont on a entendu parler puisque un de leurs membres avait projeté des attentats et donc a été arrêté. Donc on a parlé d'eux comme de l'ultra-droite, etc., dangereuse.
Oui, un ancien alors qu'en réalité, ou un ancien mythe,
voilà, c'est ça. Et alors c'est souvent, pas que, mais c'est souvent des anciens flics, mais pas que, hein, il y a toutes sortes de gens. En tout cas, des gens qui ont du temps, qui ne savent pas quoi en faire, qui ne sont pas heureux. J'ai envie de dire, c'est un peu comme beaucoup de gens, hein, comme un peu tout le monde, mais qui vont se reconstruire une identité, une communauté, des amis, une raison d'être, un combat. Et ça, ils vont le faire nourri par tout ce qu'on a raconté avant, c'est-à-dire nourri par l'extrême droite organisée, qui eux-mêmes vont pas se penser spécialement comme forcément des militants d'extrême droite du tout, d'ailleurs, ni même comme forcément des militants, mais des gens qui vont sauver la France du terrorisme ou du grand remplacement ou quoi, et qui vont à un moment donné du sens à leur existence à travers les réseaux sociaux, abreuvés de toute la boue que charrie Facebook, et qui vont construire une identité propre et qui peuvent comme ça donner des embryons d'organisation. Et c'est souvent là qu'on va avoir des gens qui potentiellement, ça c'est vrai, peuvent se radicaliser, péter les plombs. Et quand le point de bascule en fait du virtuel au réel va être total, quoi. C'est-à-dire il n'y aura pas d'étape, c'est on passe de j'ai fait un groupe Facebook à je vais prendre mon fusil et je vais tirer sur une salle de prière musulmane, quoi. We'll be right back.
Voilà, donc là on arrive un petit peu à la fin de l'émission. Déjà on a beaucoup discuté avec toi Hervé sur vraiment cette problématique là loin de nous l'idée de dire qu'Internet est un espace polluant à abandonner complètement. Au contraire, c'est aussi malheureusement un outil à critiquer, à regarder aussi avec des vraies lunettes et pas simplement naïvement. C'est vrai que ces formes aussi d'extrême droite, bon, on en a parlé, elles évoluent aussi d'une manière très sournoise et peuvent aussi, tu vois, attaquer et être partagées par des gens tout à fait innocents. C'est possible aussi. Il y a aussi pas forcément des gens, malheureusement, qui partagent des contenus sans savoir que derrière, il y a toute cette économie politique, cette économie financière, parce qu'elles se font de l'argent avec ça, certains, et puis d'autres vraiment qui sont très contents aussi de voir leur contenu propagé comme ça. Bon, on n'aura pas le temps d'évoquer non plus cette éco-compatibilité avec les grands Facebook, etc., dont l'algorithme, on en a parlé, mais hors antenne, mais que l'algorithme est quand même en adéquation, même avec quasiment le contenu d'extrême droite.
En tout cas, sur la notion d'entre-soi.
Voilà.
Ça, c'est vraiment important. Et la création de communauté.
De communauté avec les cercles.
De communauté qui, en fait, ne se construit qu'autour de valeurs ressassées, toujours les mêmes. Contrairement à ce qui nous est vendu, c'est les grands acteurs de l'Internet n'ouvrent pas vers l'extérieur. Au contraire, enferment un peu les gens dans des identités un peu toutes faites. Et le challenge, il est là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... C'est un vrai débat. Nous, je ne pense pas qu'on va on peut l'ouvrir simplement. Ça serait quand même un sujet intéressant. Est-ce que cette ouverture des communautaires peut se faire au sein de ces outils-là, malgré tout ? Est-ce qu'il y a une guérilla, entre guillemets, entreprendre dans Facebook et tout ça ? Est-ce qu'il faudrait, avec presque 20 ans de retard, effectivement, construire nos propres outils, mais alors selon quel modèle ? Encore faudrait-il réfléchir à ça, parce que si c'est pour faire la même chose, un réseau social sur les mêmes de l'entre-soi, ça sera pareil. Ou bien, troisième option, rester sur l'idée que les vrais enjeux restent dans le monde réel. Que finalement, c'est un petit peu la conclusion qu'on s'était donnée, est-ce que Internet n'est pas quand même aussi, du fait qu'il soit un miroir grossissant, déformant, un miroir aux alouettes pour l'extrême droite elle-même, qui se sent toute puissante, qui, parce qu'elle voit 800 000 vues, 1 million de vues, s'auto-intoxique et tout à fait persuadée que l'ensemble des gens pensent exactement comme elle. C'est intéressant de voir quand même, je pense au mouvement des Gilets jaunes, que dans les premiers cahiers de doléances qui sont remontés, on s'est rendu compte que le dada de l'extrême droite, qui est de te dire aux gens, mais en côté, la cause de tous vos problèmes, c'est les migrants, c'est ça qui coûte de l'argent, c'est pour ça qu'il y a des taxes, c'est pas du
ça
tout.
Ça n'apparaissait pas.
Alors ça paraît un peu, mais je me rappelle plus dans quelle ville c'était, je crois que c'était dans quel département,
dans l'Indre.
Dans les cahiers de doléances, la question de l'immigration apparaît, mais très tard, en fait, finalement, après bien d'autres préoccupations de justice sociale, du pouvoir d'achat, etc. Et que donc, cette lutte-là, c'est peut-être plus sur les ronds-points qu'il faut la mener que sur les comptes Facebook, où de toute façon, une parole chasse l'autre, où il n'y a pas vraiment de temps pour la penser, où il y a beaucoup de manipulations, de contre-vérités qui circulent, et où il est très difficile, finalement, de faire entendre sa voix. On le voit, nous, par exemple, on a eu des grands débats sur notre site. Nos articles, on nous a dit « Mais vos articles sont trop longs, faites des vidéos ». Et en fait, on s'est rendu compte que si nous on faisait des articles trois fois plus courts et avec des vidéos, on dirait plus la même chose, de fait. Et en fait, on dirait plus ce qu'on a envie de dire. Donc au contraire, je pense qu'il y a une lutte à mener sur la question du format, sur la question de l'immédiateté, sur la réflexivité, le rapport à l'information. Tout ça, c'est des chantiers ouverts. Et qui, plutôt que de courir, ça me semble dangereux, en tout cas, surtout avec l'avance que l'extrême droite a pris sur ce terrain, de lui courir après sur les bases sur lesquelles elle est solide. Et peut-être, mais encore une fois, le débat est ouvert, peut-être c'est ailleurs que sur les réseaux sociaux qu'il faut s'organiser et pour vraiment combattre efficacement l'extrême droite.
Bon, je te remercie Hervé d'être venu nous faire un peu un panorama et d'avoir discuté sur ce sujet.
Merci à toi. Merci aux auditeurs et aux auditrices.
Voilà, du collectif La Horde qui effectivement vous...
Peut-être je redonne l'adresse du site.
Quelle recherche.
C'est lahorde.samizdat.net.
Voilà, et donc sur Fréquence Paris Pluriel, ben on continuera hein, le cycle extrême droite, fascisme, populisme, nationalisme, autoritarisme sur notre antenne avec deux autres diffusions, le jeudi 24 janvier à 19h sur le nationalisme religieux en Inde, aux États-Unis, en Israël, le dimanche 27 janvier de 18h à 20h sur les résistances antifa à travers la musique punk. Et on clôturera donc le cycle par une soirée projection le samedi 16 février avec le film projeté L'amour et la révolution de Yanis Yuntas, dont on a évoqué un peu le nom tout à l'heure, et ce sera dans les locaux de FPP, dehors, au bar de la Solidarité, enfin à l'intérieur, hein, vous inquiétez pas, au bar attenant, aux locaux, 1 rue de la Solidarité, dans le 19e arrondissement. Merci à tous, et quant à moi, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouvera notamment pour les émissions du samedi de 18h à 19h30 sur les émissions Corse et Basque. Voilà, ciao à tous.